Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'intégrale, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Ce sont des images qui resteront sans doute dans les annales du Salon de l'agriculture. 48 heures après la visite sous haute tension du président, après 13 heures passées à tenter de nouer un dialogue avec les agriculteurs, la situation reste politiquement fragile. Emmanuel Macron l'assure, ce sont des militants d'ultra-droite qui ont torpillé sa visite. Jordan Bardella cible lui un président qui est devenu, je cite, un facteur de tension et de désordre et sur joue le contraste avec une déambulation tranquille dans les travées du salon hier et aujourd'hui. Gabriel Attal lui a fait une visite éclair dimanche soir. Il retournera au salon demain dès 7h en espérant que la proposition d'instauration d'un prix plancher pour garantir le revenu des agriculteurs aidera à apaiser une colère paysanne qui, malgré les nombreuses annonces, s'installe donc en France mais aussi dans plus d'une dizaine de pays européens. Salon de l'agriculture, les leçons d'un chaos. C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Éric Fotorino, vous êtes écrivain, cofondateur de Zadig et de 1 Hebdo. À la une cette semaine, les paysans sont-ils sauvés? Je renvoie à votre livre Mohican sur le monde paysan, publié chez Folio. Louis Osalter est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste politique au Figaro qui titre aujourd'hui « Macron défend sa ligne malgré le raté du Salon de l'agriculture ». Je cite d'ailleurs votre article « Salon de l'agriculture européenne et Rennes, les confidences d'Emmanuel Macron au Figaro ». On va en parler dans un instant puisqu'il vous a parlé longuement. Audrey Goutard est avec nous ce soir. Vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous êtes spécialiste des faits de société. Enfin, Brice Trinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je cite votre passionnant sondage à lire aujourd'hui dans Le Parisien, selon lequel, chez les 18-24 ans, Jordan Bardella arrive légèrement en tête parmi les personnalités politiques qui inspirent le plus confiance, tout juste devant Gabriel Attal. On va en parler aussi avec vous ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je vais dire une phrase qui est du Macron. C'était le bordel. Oui. C'était le bordel. C'est ce qu'il vous a dit, Emmanuel Macron, lorsque vous l'avez eu au téléphone. Il tenait à revenir sur ce qui s'est passé au Salon de l'agriculture samedi.
Et oui, il a dit de nombreuses reprises aux exploitants eux-mêmes d'un air un peu de contrition. Parce qu'Emmanuel Macron, il faut quand même voir que derrière ces images, il y a aussi des images qu'on a moins vues, qui est celle de la foule attendant devant le parc des expositions de Paris, les familles, les poussettes, attendant que le salon veuille bien ouvrir, sachant qu'à l'intérieur, eh ben, c'était le bazar, c'était le bordel, avec le service d'ordre qui coursait des manifestants qui allaient dans les allées, Emmanuel Macron, dont on ne savait pas où il était, qui a finalement improvisé ce débat avec des représentants d'agriculteurs dans une salle à l'écart, donnant cette impression, ce contraste surréaliste entre ce débat dans cette salle sans âme et ce salon vide attendant ses visiteurs, et dont le principal pavillon, celui des vaches, des agneaux, des cochons, ne pouvait pas ouvrir, n'a pas ouvert avant 15h30, fin de la déambulation présidentielle, dans ce premier pavillon. C'est ça aussi, je pense, qui reste en termes d'image. Et je peux vous dire que les exploitants, les exposants n'étaient pas très contents que ça ait ainsi impacté cette journée d'ouverture.
Éric Fotorino, est-ce que c'est plus que, pardon, j'y reviens, mais est-ce que c'est plus que juste le bordel, ce qui s'est passé avec le président de la République?
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a deux phénomènes qui se conjuguent et qui donnent ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la colère agricole, la désespérance agricole. Le gouvernement et Emmanuel Macron pensaient qu'il y a 3 semaines, ils avaient quand même éteint l'incendie pour que précisément au moment du Salon de l'agriculture, ce soit ce que c'est tout le temps, une sorte de fête familiale, c'est le rat des villes et le rat des champs. Quoi. On va montrer aux enfants, aux familles, les beaux produits de la France, etc. Donc que ce soit quelque chose d'apaisé, sauf les années électorales de politique, notamment présidentielle, où on les voit tous au salon. Et puis, une désespérance beaucoup plus profonde, mais là, il faut entrer dans l'histoire de l'agriculture dans notre pays, qu'ont écrit Brodel, qu'ont écrit Henri Mandras, ses sociologues, etc., c'est-à-dire la fin d'un monde. Et c'est un monde qui n'arrive pas à mourir, mais qui est en train de mourir, alors que ça, c'est pas moi, c'est Gramsci qui disait ça, un autre va apparaître, il est déjà un peu apparu. Certains sociologues disent qu'on est passé de la ferme à la firme, c'est-à-dire qu'en gros, l'agriculture familiale est en train de disparaître, elle existe encore, l'agriculture d'entreprise capitalistique, où la terre est un moyen de produire, mais elle n'est pas le seul, il y a les machines, les hommes. Bon, donc c'est cette désespérance très profonde qui vient de loin, plus, en effet, cette politique agricole qui est suivie par le président.
Ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas s'en tenir à la lecture peut-être politique qui est faite, qui est dire, il y a une forme d'instrumentalisation, parce que c'est aussi ce qu'a dit, ce que vous a dit le président, on va y revenir, hein, qui est de dire aussi ça a été instrumentalisé. C'était des activistes d'extrême droite qui sont venus à un moment donné chanter les louanges du Frexit et qui ont plombé la visite du chef de l'État, Audrey Boutard.
En fait, pour avoir suivi toute cette journée, je dirais que c'est plus compliqué que ça. Il y a eu plusieurs étapes. Et la première étape, ça a été effectivement cette entrée en force dans le salon. Je peux vous dire que parmi les interpellés, il y en a eu à peine une dizaine, il y avait aussi des patrons départementaux de la FNSEA. Ce n'était pas l'extrême droite qui avait manipulé. Donc il y avait ce temps-là. Après, le deuxième temps, ça a été celui effectivement d'Emmanuel Macron qui improvise cette discussion et ce dialogue avec des agriculteurs. Et là, on a vu d'autres profils encore qui se dessinaient. Et c'était très intéressant parce qu'on a interviewé beaucoup de ces agriculteurs. Il y avait des politisés et puis d'autres qui étaient juste là parce qu'ils avaient des revendications et qui étaient non syndiqués. Et puis, effectivement, ensuite, il y a eu toute cette déambulation où, sous les sifflets d'un côté et en même temps avec des discussions. Donc, c'est un salon tout en teintes différentes, je dirais.
Il est resté 13 heures, Emmanuel Macron.
13 heures.
Le salon de l'agriculture. Voilà. Avec l'idée, peut-être, de faire oublier ce début de matinée chaotique.
Et on a senti à certains moments qu'il avait réussi à faire oublier ces instants-là, puisqu'effectivement, il y a eu des moments de dialogue intense.
Brice Tinturier, qu'est-ce qu'on garde ? Elle est peut-être difficile, dites-moi, mais qu'est-ce qu'on garde de ces images ? Qu'est-ce qu'on garde de ces journées ? À votre avis, qu'est-ce que les Français peuvent retenir ? À la fois cette espèce de moment de fébrilité où on a un chef de l'État entouré des CRS qui ne peut pas aller à la rencontre des paysans. Est-ce qu'on garde un chef d'État qui assume, qui se met en bras de chemise et qui va au charbon pendant 13 heures ? Il reste, je le disais en débutant cette émission, un sentiment que cette crise politique, ce moment politique laisse quelque chose d'un peu fébrile.
Fébrile, mais je crois que c'est surtout l'image effectivement d'un monde qui est en train de de mourir. Et du coup, des angoisses de disparition très fortes, une colère très forte et quelque chose qui n'était jamais arrivé dans ce salon de l'agriculture. Donc ce qui va, à mon avis, imprimer la mémoire collective, potentiellement, c'est plutôt la brutalité de ce qui s'est passé, l'intensité de la colère. Alors effectivement, on ne peut pas la réduire uniquement à une instrumentalisation.
D'accord.
Par le Rassemblement national, il y avait quand même de ça aussi.
Bien sûr. Mais pas que.
On ne peut pas réduire ce qui s'est passé uniquement à ça. Et Eric Fotorino citait Gramsci, hein, entre le monde qui meurt et l'autre monde qui n'a pas encore émergé, mais Gramsci ajoute, et c'est dans cet entre-deux que naissent les monstres. Donc le point inquiétant, et vous évoquiez la fébrilité, je crois que c'est celui-là, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ça va
derrière.
Se terminer. Mais comment ça va se terminer ? Comment est-ce qu'on va retrouver un équilibre ? Les angoisses de disparition des agriculteurs, elles résonnent très fortement dans la société française parce que beaucoup d'autres professions s'inquiètent aussi sur leur avenir. On l'a vu avec les gilets jaunes, ça n'a pas grand-chose à voir en commun, mais ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que je ne suis pas en train de disparaître ?
C'est ça aussi qui s'exprime dans cette crise-là. Est-ce qu'il en avait conscience, à votre avis, dans la discussion que vous avez pu avoir avec le chef de l'État ? Moi, de ce que j'ai lu dans les colonnes du Figaro, c'était surtout une lecture très politique qui était de dire, il y a deux modèles, il y a le modèle en gros du RN. Et puis il y a le modèle qu'on propose, je cite une des phrases, hein. Il dit il y a une offre politique pour réformer l'Europe et la rendre plus unie aux côtés de l'Ukraine, défendre la PAC, et de l'autre, ceux qui veulent le Frexit, qui veulent sortir de la zone euro, ce sont des transformistes, voilà ce que dit le chef de l'État.
Oui, Emmanuel Macron, au salon, puis dans nos colonnes du Figaro, a tenté de tourner la page, cette mauvaise page de ce samedi, en se projetant vers les élections européennes. En fait, il essaie d'apporter deux types de réponses à cette colère agricole. Il y a la première réponse qui est technique, j'allais dire. C'est-à-dire, il déroule des mesures, il a à nouveau fait des annonces, et on en parlera sur le plan du terrain, sur le plan de la réponse du gouvernement et de l'administration. Là-dessus, il essaie de coïncider avec les demandes des paysans. On en parlera. Et après, il y a la réponse politique. C'est-à-dire qu'il a accusé les agitateurs du salon d'être manipulé par le RN, en fait. C'est ça qu'il dit, hein, en mots à peine volés. Et le lendemain, Jordan Bardella récupère la mise en jouant effectivement du contraste entre sa visite qui se passe dans le calme à coups de selfie et Emmanuel Macron qui a fait une déambulation sans même que le public soit présent dans le même hall. Donc je pense qu'il donne de rendez-vous. Dans 3 semaines, dit-il, il réunira les représentants du monde agricole à l'Élysée. Et là, il dit aussi dans le Figaro, il faut sceller la fin de la crise à ce moment-là. Donc il prend un risque, il donne une échéance à un moment où le gouvernement avait déjà tenté plusieurs fois de calmer la grogne. Et l'autre rendez-vous qu'il donne, c'est évidemment celui des élections européennes. Mais je ne sais pas si l'arbitrage de ce match électoral-là tournera à son avantage et le verra sortir vainqueur de cette façon dont il s'est enlisé dans cette crise agricole.
On va y revenir sur ce clivage, sur les propositions des uns et des autres, et peut-être ces deux modèles qui sont proposés. Mais juste un mot quand même pour revenir à l'origine. Est-ce que le fait qu'on a ciblé ces deux conseillers proches de Pascal Canfin, qui auraient été à l'origine de l'invitation des soulèvements de la terre pour organiser ce débat, le point de départ de la colère, c'est ça. Est-ce que ça aussi, ça raconte autre chose, Brice Teinturier? Est-ce que c'est cette espèce de en même temps perpétuel qui finit par susciter de la colère?
Moi, je crois que ce que ça raconte, c'est vraiment l'histoire d'un pays qui ne célèbre plus son unité. Le salon de l'agriculture, c'était un moment où on célébrait l'unité du pays. On célébrait que peu ou prou, tous les Français ont, parmi leurs ascendants, des agriculteurs. Et ça devient un lieu d'affrontement. C'est ça qui est nouveau. D'accord. Et l'affrontement, il devient permanent. On a eu l'affrontement force de police et manifestants, ou agitateurs, ou coordination rurale. Et puis, on a l'affrontement politique, ce qui est rare au salon de l'agriculture. Hein, de mémoire, moi, je crois que c'est la première fois qu'un chef de l'État lance une campagne européenne ou une campagne politique électorale au sein du salon, en ciblant nommément un adversaire, et on a l'impression que la campagne, elle vient de démarrer, là.
Ouais. C'est toujours un moment politique.
C'est toujours un moment politique.
Toujours celui qui reste le plus longtemps, celui qui boit le plus, celui qui mange le plus.
Mais là, c'est pas simplement politique, c'est électoral. On lance une campagne électorale. Donc on est aussi dans un affrontement, RN, Macronie, et ça, c'est tout à fait nouveau.
Ce que je veux dire, c'est que sur le point de départ, l'allumette, c'est l'étincelle qui a fait que ce débat n'a pas pu avoir lieu parce qu'il avait, il aurait invité. Alors, il a dit le responsable, c'est moi, hein, ça c'est dans vos colonnes. Ça raconte quelque chose, ça aussi, Éric Fotorino?
Oui, mais je pense que la FNSEA et les autres syndicats, elle n'était pas la seule à contester ça. Mais pour elle, ça tombait bien d'une certaine manière.
D'accord.
Vous savez, quelquefois on dit ils vont créer l'incident. Oui. Je pense que le fait qu'il y ait eu cette maladresse, ou en tout cas cette décision qui n'en était pas complètement une, elle a montré quoi? Elle a montré la difficulté du pouvoir aujourd'hui, mais comme ses prédécesseurs aussi, de savoir choisir quel modèle agricole ils veulent. Mmh. C'est-à-dire quelle France agricole ils veulent. Est-ce qu'ils veulent cette espèce d'agriculture racontée à Suzette avec, vous voyez, la belle ferme, avec des champs, avec des chemins, des GR, tout ce qu'on veut. Mmh. C'est beau, une petite rivière qui coule au milieu, etc. Ou est-ce que c'est une industrie? Et à partir du moment, vous voyez que si on prend le parallèle avec l'acier, par exemple, avant il y avait plein de petites aciéries en France, puis un jour on a eu Mittal. Bon, il y a eu Arcelor et puis il y a eu Mittal. C'est ça qui est en train d'arriver à l'agriculture française. Et donc, c'est pour ça que quand Jordan Bardella parle de localisme, on se dit, mais où est-ce qu'il est? Le localisme ne peut pas exister. Ou alors on va faire comme Jules Méline au 19e siècle, on va remettre des barrières, faire du protectionnisme, etc. Donc, il y a un discours à la fois que certains veulent entendre, mais qui est complètement irréaliste, et un autre qui est celui du réel, justement. Et le réel, je rappelle que quand même Henri Mandras, La fin des paysans, c'est 1965, quelque chose comme ça. Et il se les fait reprocher. Je me souviens d'une interview avec lui, il me disait que vous ne savez pas comment la FNSEA a voulu me... Mais on y est, voilà, on y est, évidemment.
C'est aussi pour ça que ça part si fort sur cette histoire de débat, parce que ça donne le sentiment qu'on ne choisit pas de modèle.
Oui, on ne choisit pas, je crois qu'il manque une vision, mais quand même, on a choisi, malgré tout, parce qu'il y a une agriculture qui est en train de disparaître.
Et on va en continuer cette discussion, je voudrais qu'on aille au premier reportage. La ligne du gouvernement, en tout cas, on l'a bien compris, est assez claire. Ce sont donc des activistes d'extrême droite qui ont organisé le chaos au salon de l'agriculture, voilà pour la version de l'Élysée. Jordan Bardella en visite dans le calme, deux jours d'affilée, balaie ses activistes. Accusation d'un revers de la main. Il cible un président, je cite, atteint d'une forme de paranoïa inquiétante. Ce sont ses mots. Hier, c'est Gabriel Attal qui s'est invité hors agenda. Le Premier ministre qui dénonce un cirque médiatique et politique. Nicolas Bidart, Anne Maquignon et Benoît Thébault.
Il a fini par inaugurer le salon de l'agriculture, mais sous les sifflets et avec 4 heures de retard. Samedi matin, Emmanuel Macron arrive à l'événement par une porte dérobée pour rencontrer les leaders syndicaux agricoles. Loin de la cohue, alors que des agriculteurs forcent l'entrée de l'exposition et tentent de passer le barrage de CRS pour s'opposer à la venue du président. Dernière minute, un échange est organisé entre le chef de l'État et des agriculteurs. Deux heures de dialogue façon grand débat, parfois tendu.
S'il n'y a pas de questions, le salon se passe bien parce que pour vos collègues, c'est parfois des mois, voire des années de boulot. Ils sont montés avec leurs bêtes, avec leur travail pour le montrer là. Je veux dire,
Monsieur le Président, ça ne tient qu'à vous.
Non, ça ne tient pas qu'à moi. Non, attendez. Moi, je vais répondre, je vais m'engager. Moi, je n'ai pas commencé. Et j'ai pas attendu la crise pour m'engager pour l'agriculture. On va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin.
Emmanuel Macron s'engage à prendre certaines mesures. Mise en place de prix planchers, plan de trésorerie et d'urgence et simplification administrative. Dans les allées du salon, la colère ne retombe pas, mais peu importe, le chef d'État déambule sous bonne escorte. Et accuse le Rassemblement national d'instrumentaliser la détresse des agriculteurs.
Ils n'en disent, vous savez, on va arrêter avec l'Europe, c'est trop compliqué, on va vous protéger, dans une démagogie complète, on va fermer les frontières, quand ça ne vous arrange pas. Mais ils oublient de leur dire que par ailleurs, la ferme française, elle ne marche pas s'il n'y a pas l'Europe. Elle ne marche pas s'il n'y a pas la PAC, et elle ne marche pas si on ne continue pas nous-mêmes à importer des choses de l'Europe dont on a besoin, parfois pour nourrir nos bêtes ou autres, et nous-mêmes exporter des productions qui sont les nôtres dans le reste de l'Europe.
La tête de liste du Rassemblement national aux européennes, justement, s'offre une visite de 2 jours au salon. Jordan Bardella ne manque pas de jouer la comparaison.
Il est clair que l'accueil que nous recevons au Salon de l'agriculture est un accueil bienveillant et chaleureux. Ça n'est pas le cas pour le président de la République. Je pense qu'il devrait plutôt s'interroger, y compris son Premier ministre d'ailleurs, sur la raison pour laquelle le président de la République a besoin de 3 cordons de CRS pour pouvoir se rendre au Salon de l'agriculture.
Et entre 2 sollicitations...
Salut Hugo, on t'embrasse depuis le salon de l'agriculture et depuis le stand des jeunes agris.
Le président du RN rencontre lui aussi les syndicats agricoles sur leur stand et tacle le gouvernement.
Merci beaucoup.
Il faut surtout changer de cap et changer de logiciel. Tant qu'on continue dans l'idée de l'écologie punitive, tant qu'on continue dans la décroissance et tant que... on considère qu'il faut importer et ne plus avoir d'agriculture en France, alors les choix qu'on prendra seront délétères pour l'agriculture française.
Un week-end d'affrontement au Salon de l'agriculture et un Premier ministre qui y effectue une visite surprise dimanche soir pour s'en prendre au parti d'extrême droite sans le nommer directement.
Monsieur le Premier ministre, les Français ne sont dupes de rien, ni de l'instrumentalisation, ni du mensonge, ni de la poudre aux yeux. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne.
Gabriel Attal reviendra mardi au salon, où il arpentera les allées toute la journée. Le chef de l'État, lui, recevra les syndicats agricoles dans 3 semaines à l'Élysée. Bon salon
à tous et toutes. Brice Teinturier, vous faisiez une remarque en regardant ce reportage sur la juxtaposition de ces deux ambiances, en fait.
C'est un renversement total, puisqu'on a l'impression que le paria, ce serait le président de la République, et que celui qui serait chez lui, ce serait Jordan Bardella, le RN, qui n'était pas bienvenu chez les agriculteurs.
Comment ça, il n'était pas bienvenu ?
Mais il faut
c'est pas ce qu'on voit sur ces images.
Non, sur ces images, il était bienvenu. Mais l'électorat des agriculteurs votait à droite. Et jusqu'à la présidentielle, il a continué à voter pour Emmanuel Macron, bien plus que pour Marine Le Pen ou pour Éric Zemmour. Donc pourquoi ? Parce qu'on avait des agriculteurs qui étaient parfaitement conscients de ce qu'avait apporté l'Europe. Il y avait la figure de Jacques Chirac aussi qui était une incarnation réelle pour les agriculteurs qui connaissaient le monde rural. Et là, Emmanuel Macron ne donne pas cette impression. Mais au-delà de ça, les agriculteurs savaient parfaitement ce que la PAC, ce que l'Europe avait apporté. Et c'est ce phénomène qui s'est en réalité fragmenté. C'est parce qu'aujourd'hui, on a toujours un apport considérable de l'Europe à l'agriculture française, mais on a également effectivement des distorsions de concurrence, des normes, et c'est ça qui s'est fragmenté. Et du coup, le RN et Jordan Bardella surjouent une espèce de côté comme s'il était chez lui, que tout allait bien, et que c'était les tenants du pouvoir qui sont en difficulté parce qu'ils seraient contre le monde agricole.
On va poursuivre notre discussion sur le salon, mais peut-être une parenthèse sur cette étude que vous avez publiée aujourd'hui dans Le Parisien, puisqu'on parle de Jordan Bardella. Qui arrive en tête chez les jeunes ?
Tout à fait, il arrive en tête de peu devant Gabriel Attal, 3 points, mais malgré tout, c'est symptomatique. Les deux sont clairement en tête par rapport à toutes les autres personnalités de moins de 45 ans que nous avons testées. Alors, au niveau des Français, c'est Gabriel Attal qui arrive en tête, mais chez les moins de 24 ans, chez les 18-24 ans, c'est Jordan Bardella. Et il y a véritablement un effet Bardella dans l'opinion en général et chez les jeunes en particulier.
Que propose Bardella pour régler la question paysanne à part faire des selfies ? Éric Fautorello.
Écoutez, il a avancé deux mots qui sont pour moi un peu des inepties, mais peut-être qu'ils ont quelque chose derrière de plus solide. Là, il y a le mot de localisme et le mot d'exception agriculturelle.
Donc agriculturelle.
Voilà, donc, et voit bien, ça résonne avec l'exception culturelle. Autrement dit, c'est de dire, on va mettre comme sous une cloche la France et ses paysans. Vous inquiétez pas, on va vous protéger. On va vous protéger. Vous pourrez produire avec des prix qui seront garantis. Vous pourrez exporter, bien sûr. Vous pourrez vivre bien de votre travail. Et évidemment, on mettra des protections qui feront que vous ne serez pas embêté par les produits qui arrivent de pays où les conditions sociales, les conditions de production ne sont pas les mêmes. Donc, c'est une utopie qui, évidemment, ne tient pas la route. Mais surtout, j'ai eu l'occasion de le dire, d'ailleurs, à un responsable du RN hier, ça fait 20 ans que le FN d'abord et le RN ensuite votent à Strasbourg, dans le cadre de la politique européenne, toutes les lois qui contribuent à démanteler la PAC et d'aligner les prix agricoles européens sur les prix mondiaux. Autrement dit, ceux dont il dit qu'il est en train de les protéger au salon de l'agriculture, c'est ceux qui tuent en premier et c'est ceux qui disparaissent. Alors, on s'entend bien, ce n'est pas le RN qui va les faire disparaître. Mais il y a une telle, un tel contraste entre ce qu'ils font et ce qu'ils décident depuis 20 ans, unilatéralement. Et
au Parlement européen notamment.
Au Parlement européen notamment. La loi Egalim, il n'était même pas là pour la voter.
Ouais.
Donc on voit bien que c'est une parade, c'est du mensonge. Et moi, ce qui me trouble quand même, c'est quand des responsables politiques deviennent irresponsables. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... On peut mentir. Enfin, c'est peut-être l'époque. Hein, on a vu ça avec Trump, avec beaucoup de choses. Mais on peut mentir impunément. Et puis, ça dit beaucoup quand même du désespoir d'une frange de l'agriculture qui est prête à se jeter dans les bras de Bardella.
Et ça fait écho à la scène qu'on a vue dans le reportage où on voit Emmanuel Macron qui s'énerve, qui hausse le ton et qui s'adresse à ses agriculteurs en leur disant, mais en gros, on ne peut pas considérer que tout est fichu, que tout est foutu. Et c'est aussi à cette population-là qui est peut-être séduite aussi par ces solutions, même si elles ne sont pas totalement cohérentes.
Au nom d'une forme de désespoir, parce qu'ils ont le sentiment... En fait, moi, ce qui manque, vous savez, dans les années 60, qui a été vraiment la fondation de la politique agricole commune, en France, il y a eu deux hommes qui ont eu une vision. Ces deux hommes, c'était Edgar Pisani, qui était le ministre de l'Agriculture de Gaulle, et c'était Michel de Baptiste, qui était le représentant des jeunes agriculteurs. Et ils ont accompli ensemble ce qu'on a appelé la révolution silencieuse. La révolution silencieuse, ça a été... Il y a la modernité qui arrive, les deux coups de baguette magiques, la motorisation, la chimie. Donc, ça va être un exode rural terrible, mais on va l'accompagner. Et cette décohabitation, en plus, avec les générations d'avant, etc., je ne vais pas refaire toute l'histoire de l'agriculture française en trois minutes, mais ça a été accompagné par deux hommes qui avaient ce charisme. Aujourd'hui, il nous manque, j'allais dire, un Pisani, un De Baptiste, qui pourrait accompagner cette deuxième révolution, qui est, en effet, demain, il y aura une agriculture hyper moderne en France.
Je ne sais pas si, à vos yeux, il a du charisme. En tout cas, il s'exprime sur le sujet, il s'appelle François Bayrou, et il dit le hiatus entre la base du monde agricole et les pouvoirs, c'est du même ordre que le grand divorce entre les gens qui se battent en bas et ceux qui décident en haut. Considère que voilà, ça c'est la même chose qui se joue.
Hiatus qui vaut aussi entre la base agricole et ses syndicats. Et ça, c'est ce qu'on considère à l'Élysée. En fait, quand Emmanuel Macron, c'est parlant dans la scène de samedi, il rencontre d'abord les syndicats, les patrons des syndicats. Mais il a beau leur parler, il a beau leur prendre des engagements, ça crie toujours en bas, dans les allées, et personne parmi les têtes des syndicats n'est capable d'aller calmer ces troupes-là. Et c'est là que l'Élysée, maintenant, on a acté le fait que les principaux responsables des syndicats majoritaires dans le monde agricole ne tiennent pas la base, sont déconnectés de la base. Et ce qui joue aussi dans ce sens-là, c'est la pluralité des situations agricoles. Il est évident que un Arnaud Rousteau, qui est patron de la FNSEA, mais aussi du grand groupe agroalimentaire Avril, ne s'entendra jamais avec un éleveur de vaches normandes qui est obligé de vendre son lait à Lactalis pour un prix dérisoire, ne s'entendra jamais avec la Confédération paysanne, ne s'entendra pas avec la coordination rurale et surtout celle qui est en Haute-Garonne, dans le Lot-et-Garonne, dans les territoires les plus radicaux et aussi les plus en difficulté. Il y a aussi cette pluralité du monde agricole qu'il faut avoir en tête, et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'Emmanuel Macron, gouvernement ont du mal à se sortir de cette nasse, c'est que les revendications sont disparates et il y a autant de situations que de terroirs, d'appellations protégées, de régions, de filières. Ce sont autant de situations différentes qu'il ne peut absolument pas régler d'un coup de baguette magique.
Ça fait quand même des semaines que ça dure. Il y a eu beaucoup de choses de mises sur la table depuis le début de cette crise agricole.
C'est la réalisation qui compte aussi. Et ça, c'était frappant aussi dans le débat aussi auquel j'ai assisté samedi.
C'est-à-dire
il y a une revendication qui revenait beaucoup. Les agriculteurs, leurs représentants avaient l'air assez satisfaits du sens que prenaient les engagements pris par le gouvernement jusque-là. Mais ils disaient à Emmanuel Macron, on ne les voit pas sur le terrain. Ouais. Les préfets, ça ne sort pas des préfectures. L'administration n'est même pas au courant que tel contrôle a sauté, que tel contrôle a changé. Ça, c'est le problème, l'éternel problème des manettes. Le politique actionne la manette, mais ça ne sort pas en trois semaines. Et donc, il disait au président, on est d'accord avec ce que vous avez dit, mais on ne le voit pas sur le terrain.
Oui, Saint-Soyer.
Tout cela est évidemment exact. Je voudrais ajouter un ingrédient supplémentaire et inverse. Le discours dominant, c'est de dire que la base est déconnectée du haut. De temps en temps, c'est la base qui peut être déconnectée aussi du monde qui est en train de se préparer. Et bien sûr qu'il y a tout ce que vous avez indiqué, mais je pense qu'on ne peut pas que s'engouffrer, c'est ce que fait François Bayrou, manifestement, que dans cette vision où il y aurait un haut déconnecté, systématiquement déconnecté, et une base qui serait dans le réel.
Ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a aussi des agriculteurs qui ne mesurent pas la grande mutation qui nous attend, notamment écologique, qui va obliger.
Vous avez raison de souligner que le monde agricole, il est pluriel. Qu'est-ce qu'il y a de commun quasiment entre un grand producteur de céréaliers de la Beauce et quelqu'un des Ardennes ou un éleveur ou quelqu'un qui fait des fruits dans le sud de la France? Pas grand-chose, mais ils sont soumis ensemble, tous, à quelque chose qui, pour le coup, est bien là, c'est le monde extérieur. C'est la mondialisation, c'est la mécanisation, c'est l'intensivité.
Et donc, mais on ne peut pas simplement... Pardonnez-moi, Boris Teinturier, on a l'impression que c'est fini. C'est-à-dire que la mondialisation, l'ouverture, on a changé de discours. On parle désormais de souveraineté, on parle de frontières, on parle même de prix régulés.
C'est tout le débat. Parce que vous pouvez fermer les frontières et clamer la souveraineté, mais elle ne se décrète pas, elle se conquiert la souveraineté. Elle se conquiert aussi parce que votre environnement est, si ce n'est hostile, du moins extraordinairement difficile et que les enjeux de compétitivité, ils sont toujours là. Donc ce qui rend la situation, je crois, extraordinairement complexe, c'est qu'elle fait écho à ça, et les Français le sentent, qu'on est dans un monde aussi concurrentiel, difficile, complexe, et en même temps, il y a cet attachement fondamental à ce qui nous unit, à ce qui constitue notre passé. Mais les deux s'entrechoquent et on ne peut pas uniquement dire c'est le bas qui a raison ou c'est le haut qui a raison.
Est-ce qu'il a une vision, le chef de l'État, sur un sujet comme celui-ci, sur le sujet de l'agriculture, sur les mutations? On parlait de la transition écologique, puisqu'en fait ça a été quand même un des moteurs aussi de la colère, même si ça s'est traduit par l'imposition de normes d'en haut d'ailleurs, et peut-être même parfois de normes européennes. Est-ce qu'il a défendu pendant ces 13 heures ou pendant ce début de deuxième quinquennat, à votre avis, Éric Fotorino, une forme de vision sur ce qu'il propose à ses agriculteurs avec toutes leurs différences?
Vous savez, je crois que là, il est vraiment dans le en même temps, parce qu'il est à la fois conscient des impératifs climatiques, réchauffement, etc. Donc il faudrait une agriculture plus respectueuse, plus de l'environnement, de l'eau, des terres, tout ce qu'on connaît, et de nous-mêmes, de ceux qui consomment. Et en même temps, c'est quelqu'un... L'expression, la sémantique est intéressante. La ferme France. Qu'est-ce que ça veut dire, la ferme France? La ferme France, c'est presque un langage techno pour dire, voilà, on vend des Airbus, on vend du blé. Et d'ailleurs, la FNSE a longtemps calculé les exportations du blé français en équivalent Airbus. C'est donc se dire l'imaginaire qu'il y avait derrière. Donc je pense que c'est pas tant qu'il a pas de vision, mais il voit bien que mettre du droit, des règles dans cette situation est compliqué, parce que la PAC qui est au-dessus, il faut toujours rappeler que 80% des aides vont à 20% des agriculteurs. Donc on peut dire on va aider ceux qui... Non, on aide ceux qui ont le plus d'hectares. Vous disiez 700 euros pour Rousseau. Bon. Et puis l'autre point, c'est que, rappelez-vous, il y a encore deux mois, pour lutter contre l'inflation, le gouvernement, Macron, disait on va baisser les prix alimentaires. Donc, vous voyez, c'est toujours les prix. Maintenant, on veut les relever pour que les gens vivent. Donc on voit bien que c'est compliqué. Moi, il n'y a qu'à Faucon. Mais c'est complexe parce que il faut traiter inégalement les choses inégales. Brice l'a bien dit et vous l'avez dit. Il y a des agricultures. Et donc, si vous taillez un même costume à chaque agriculteur, forcément, vous allez en éliminer brutalement certains. C'est ce que j'appelle la stratégie saoudienne. Vous savez, les Saoudiens, sur le pétrole, l'Arabie saoudite, à une époque, ils acceptaient que les prix tombent très, 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 très bas pour évincer ceux qui allaient mourir parce qu'ils ne pouvaient pas produire. Alors, l'Arabie Saoudite, elle souffrait, mais elle savait qu'une fois qu'elle aurait éliminé ses concurrents, elle pourrait remonter les prix, elle allait gagner.
Elle choisissait son modèle.
Les agriculteurs, ceux qui sont les tenants de la FNSEA des grandes cultures, ils pourraient accepter que ça baisse au prix du marché parce qu'ils savent que là, ils vont éliminer une grande partie et après, ils les rachèteront. C'est ce qui est déjà passé depuis 15 ans.
André Goutin.
Oui, et puis il y a un point aussi, c'est que ces agriculteurs vivent dans une ruralité et donc ils ont des familles qui ne sont pas obligatoirement elles-mêmes agriculteurs, mais qui sont ruraux. Et on voit bien que le grand désespoir de cette ruralité aujourd'hui, et qui vote essentiellement RN, c'est celui de ces gens qui vivent en zone blanche, qui ont l'impression d'avoir été les délaissés depuis 30 ans. Et on voyait bien d'ailleurs, lorsqu'il y a eu ce débat d'Emmanuel Macron avec les agriculteurs, il y avait des questions très concrètes, des réponses très concrètes, et puis il y avait ces questions-là qui tournaient autour de la ruralité et de l'abandon, ce sentiment d'abandon. Il y avait notamment un agriculteur, je me souviens, qui était à moitié en larmes et qui disait « mais chez nous, on se suicide ». Donc il y a aussi cet aspect psychologique et réel de l'abandon des campagnes qui fait que, et face à ça, Emmanuel Macron et les pouvoirs publics n'ont pas de réponse. Et cette fébrilité que vous aviez sentie, donc, que vous évoquiez très justement tout à l'heure, elle est là aussi. Elle est du côté des politiques qui n'ont pas de réponse.
C'est l'ampleur face à cette, du sujet voilà. En fait, qui émerge avec cette crise agricole.
Parce qu'il n'y a pas juste des réponses de préfets à donner. Il y a 30 ans d'abandon.
C'est vrai parce que, on le disait rapidement tout à l'heure, depuis le début de cette crise, il y a eu au-delà des 400 millions, beaucoup de concessions qui ont été faites, d'ailleurs parfois sur le dos de l'écologie. Et on sent bien, alors on va voir comment ça se passe à l'issue du Salon de l'agriculture, qu'il y a quelque chose, et vous l'avez très bien dit en début d'émission les uns les autres, qu'il y a quelque chose d'autre qui s'exprime dans cette colère.
Si ce n'était que des sujets techniques, les mesures auraient suffi.
Ça aurait suffi.
Et il y a bien cette idée de « nous allons disparaître », cette détresse que vous pointez, et le fait que c'est un électorat qui irradie bien au-delà des 400 000 agriculteurs.
Exactement.
Parce qu'il y a tout un monde qui s'organise autour. D'abord, il y a les retraités agriculteurs. Ensuite, il y a ceux qui vivent aussi de l'agriculture de manière différée. Et là, ça pèse plutôt 10 ou 15% d'électorat.
Oui. C'est surtout que quand on regarde l'emploi, c'est aussi une des obsessions du gouvernement, évidemment. L'agroalimentaire, la grande distribution, c'est beaucoup plus que les agriculteurs. Donc évidemment, l'enjeu est quand même... il voit bien ce qu'il en est. Et pour rejoindre ce que dit Brice Teinturier, c'est vrai que beaucoup de ces agriculteurs, ils ont cru qu'ils étaient très modernes et qu'on allait les récompenser pour cette modernité.
Vous mettez quoi dans le mot modernité?
La modernité, c'était de produire beaucoup pour qu'on ait des prix, on soit nourri à satiété avec des prix acceptables.
D'accord.
On puisse justement acheter des téléviseurs, des voyages au bout du monde, etc. à une époque en réduisant la part de l'alimentation dans nos budgets. Après, quand on arrive, vous savez, c'est le choc, c'était Brice Lalonde. Il y a longtemps, on a appelé ça la Lalonde de choc quand il dit que les agriculteurs sont des pollueurs à la fin des années 80. Et là, tout d'un coup, ce qu'on fait, c'est plus bien. Alors qu'ils avaient fait tout ce qu'on leur disait. Les chambres d'agriculture, toujours liées à la FNSEA, la mutualité sociale agricole, le crédit agricole, tout ça allait dans un même sens. Et donc, après, sont apparues la Confédération paysanne, d'autres manières de faire l'agriculture. Et ça a toujours été une petite voix dans la grande voie, toujours, qui n'a pas changé.
En tout cas, c'est une annonce du président de la République qui a pris tout le monde de court. Il paraît même, le ministre de l'Agriculture lui-même, l'instauration d'un prix plancher pour mieux rémunérer les agriculteurs. Le président a lancé cette proposition pour tenter de calmer la colère dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi sur le sujet prévue avant le mois de juin. Une proposition qui divise même dans le monde agricole. Romain Besnénou, Constance Meyer et Marion Devauchel.
Deux mots à la une depuis ce week-end, prix plancher. Pas si simple pour le Parisien, une idée qui peine à convaincre pour le Courrier Picard. La proposition surprise d'Emmanuel Macron en plein salon de l'agriculture pourra-t-elle calmer la colère des agriculteurs?
Il y aura un prix minimum, un prix plancher. C'est-à-dire que l'indicateur qui est défini dans une filière, on va repartir sur la construction du prix de l'avant, ce sera un prix plancher en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter et donc en dessous duquel, après derrière, le distributeur ne peut pas vendre.
Une garantie commerciale et financière qui séduit cet agriculteur du Gers.
Là, on est sur du vrai bœuf, du mal castré, donc là, on est sur du haut de gamme, quoi. Il faudrait au moins un minimum de 7 euros, voire 7,50 euros. Ce serait le prix qui prendrait en charge les coûts de production. C'est vraiment le prix idéal. Aujourd'hui, on est plutôt en dessous, légèrement en dessous. On est peut-être un euro de moins, au kilo.
En plus d'élever des bœufs,
Hervé Duprat cultive du maïs, du blé, du tournesol. Un prix minimum de vente lui permettrait d'amortir ses coûts de production qui ont explosé.
Ça aurait dû être fait il y a très longtemps, parce qu'on a eu des périodes où on a été sacrément touché, très, très impacté sur les exploitations. Le matériel a augmenté, le gasoil a monté, les carburants, ça a été multiplié par 3, par 4, voire par 10 des fois, certaines choses. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous donnera la limite basse.
L'idée ne date pas d'hier. Elle avait même fait l'objet d'une proposition de loi LFI il y a seulement 3 mois. Mais le texte avait été rejeté à 8 voix près. Quasiment tous les partis avaient voté pour, sauf la majorité qui dénonçait alors une mesure d'extrême gauche.
Vérifier, contrôler, ce n'est pas fixer unilatéralement, aveuglément, les niveaux de marge ou les prix, comme ça a été le cas à Cuba, en Union soviétique, avec les succès que nous leur connaissons.
Les députés Renaissance avaient même raillé l'alliance de circonstances entre les Insoumis et le RN, qui avait voté pour le texte.
Vous appelez la NUPEN, la nouvelle union populiste, écologiste et nationale, comme ça là vous allez pouvoir plutôt avoir une certaine forme de cohérence.
3 mois plus tard donc, la gauche jubile. Jean-Luc Mélenchon crie victoire sur Twitter.
La lutte paie, elle continue, il faut bloquer les marges de profit de l'agroalimentaire.
Satisfaction et prudence. À gauche, on attend les détails de la mesure annoncée par le président. Les prix planchers dans l'agriculture, ce n'est pas une mince affaire.
On a l'habitude des entourloupes du président Macron, des grands effets d'annonce, de communication. Donc d'abord, il ne faut pas qu'il attende le niveau européen, il faut le faire tout de suite en France, hein, ça ne va pas laisser crever les éleveurs. Hein. Deuxièmement, il va falloir aussi l'accompagner d'une protection des agriculteurs, parce que ça va rendre le prix plus cher de faire des prix planchers, plus cher que par exemple des produits qui viennent du Brésil, d'Ukraine, etc.
C'est bien l'un des problèmes liés au prix plancher. Les industriels pourraient être tentés d'accroître leurs importations si les produits français deviennent trop chers. Certains syndicats s'inquiètent aussi des disparités entre régions au sein d'une même filière. Le prix plancher ne serait pas rentable pour tous.
Si c'est un prix plancher au niveau national, forcément qu'en fonction d'une zone de montagne, une zone de plaine, en fonction d'une filière AOP ou non, le prix plancher ne sera pas le même. Donc ce qu'on entend par prix plancher, ça reste encore assez abstrait. Et la diversité des filières agricoles fait que ça reste très difficile de savoir ce que ça pourra donner.
Face aux inquiétudes, Gabriel Attal a déjà tenté de rassurer en précisant que l'agriculture ne sera ni le Far West, ni l'URSS.
Débrouillez-vous avec ça, ni le Far West, ni l'URSS. Allez, cette question de Michel. En Belgique, ne faudrait-il pas alors aussi fixer un prix plancher pour tout ? Le pain, par exemple, là, on ouvre la boîte de Pandore, non ? Qui veut répondre à cette question, Audrey Moutard ?
Oui, bien sûr qu'on ouvre la boîte de Pandore, sachant qu'il existe déjà quand même des indicateurs. Hein, même avec la loi Egalim, avait proposé des indicateurs, par exemple, pour les brebis, il y a un indicateur entre 9 euros et 11 euros le kilo pour effectivement pouvoir créer une base de discussion entre les industriels, les distributeurs et les éleveurs. Bref, ça existe déjà. Après, comme le disait très justement votre reportage, tout dépend en fait région de montagne, par région de montagne, etc. etc. Et puis, l'Espagne, par exemple, si on fait un prix plancher entre l'Espagne, entre les pays européens et la France, l'Espagne, qui a des coûts de travail tellement faibles, évidemment, si vous faites un prix plancher, ils seront toujours avantagés par rapport aux Français. Donc, tout ça est extrêmement compliqué. Alors après, il faut noter quand même que c'est pas très soviétique comme méthode. C'est plutôt américain. Aux États-Unis, il y a des prix planchers pour le maïs, pour le blé, pour plusieurs céréales, et ça fonctionne. Donc il y a peut-être effectivement un travail à mener et à trouver des solutions. Ouais. Mais déjà, appliquons les lois. Egalim propose. Donc, et pour l'instant, on n'a jamais réussi à appliquer la loi Egalim, qui est un début en tout cas.
Et il y en aura une autre.
Et il va y en avoir une autre.
D'ici au mois de juin. Sur cet aspect-là, sur les prix planchers.
Ce que dit Audrey Moutard est très juste, notamment sur les États-Unis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est plusieurs choses. D'une part, du blé et du maïs, la sincérité du coût de production du blé et du maïs, elle est assez facile à trouver. En revanche, si vous êtes déjà dans l'élevage, c'est plus compliqué de savoir si vous êtes dans une région de bocage, une région de montagne, une région de plaine, etc. Avec quoi vous nourrissez vos animaux ? Est-ce que vous avez du soja brésilien, du foin ou du gras ? Bon, vous voyez, c'est beaucoup de... Après, encore, ça déjà, c'est compliqué. Mais si vous allez dans l'étape supérieure qui est la négociation avec les grandes surfaces, Alors là, il y a vraiment l'opacité totale. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on voit qu'en 20 ans, sur une brique de lait, les éleveurs ont perdu 4%, l'industrie agroalimentaire a gagné plus de 60% et la grande distribution plus de 180% sur une brique de lait. Donc, vous voyez, faire un prix plancher, mais si on ne va pas toucher tous les autres points de cette filière, ce ne sera pas grand-chose. Et puis, dernièrement, ce que je disais tout à l'heure, le droit, c'est traiter inégalement les choses inégales. Un prix plancher, forcément, il y aura des effets d'aubaine pour ceux qui sont en dessous du prix plancher dans leur capacité à produire et peut-être ceux qui seront en faillite parce que le prix plancher n'est pas assez haut, eh ben ils seront rachetés par ceux qui produisent moins cher.
Vous parliez des lois Egalim et de la négociation. Emmanuel Macron a dit qu'il voulait s'attaquer aux centrales d'achat européennes, puisque certains ont délocalisé la négociation avec des grosses centrales d'achat. Ça fait partie des portes qu'il a ouvertes. Vous vouliez réagir à ce qui vient d'être dit sur le prix plancher. Ce qui était intéressant dans le reportage, ce qu'on parlait du en même temps, c'est de voir à quel point cette idée a été combattue. Y compris par la majorité.
Mais c'est pour ça que je voulais revenir aussi dans votre reportage, cette agricultrice qui dit on a été habitué aux coups de communication et aux annonces de communication d'Emmanuel Macron. Et c'est ça qui est frappant et qui est assez terrible, c'est que de plus en plus, on a le sentiment de changement de pied. Et c'est un très bel exemple sur les prix planchers. Alors, je crois qu'Agnès Pannier-Runacher a expliqué que ça n'avait rien à voir, en réalité, avec la proposition de LFI. J'ai envie de dire, peu importe, dans l'opinion, de plus en plus, je crains que ce qui est perçu, c'est qu'un jour on dit ceci et que le lendemain, sous l'effet ou la pression de l'actualité, on dit cela. Et les prix planchers, c'est un bon exemple pour Emmanuel Macron. On retient qu'ils étaient contre, puis maintenant ils seraient pour, et puis demain, qu'est-ce qu'ils seront ? Il y a beaucoup d'exemples comme ça qui se multiplient et qui vont casser la crédibilité de tout ce qui sera annoncé. Parce que ça devient, mais tout ça, c'est de la com. Quand le politique est assimilé à uniquement de la communication...
Ça fait longtemps, Brice Teinturier.
Oui, mais ça s'amplifie. Ça s'amplifie, ça fait longtemps, mais très sincèrement, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un niveau de reproche systématique où tout ça, ce n'est que de la com. Ce qui nuit ensuite au vrai sujet, les sujets des centrales d'achat européennes, c'est un vrai sujet. Mais il faut que les locuteurs soient crédibles.
La difficulté, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure aussi, c'est la nécessité maintenant, quand on est à la place, aux responsabilités, de gérer une crise majeure par semaine avec effectivement une espèce de pression... je ne dis pas qu'il n'a pas voulu y aller, hein, mais il est aux responsabilités, il assume, etc. Mais c'est vrai que le temps politique, vous parliez de la com, c'est considérablement accéléré avec des crises de plus en plus brutales.
Vous êtes obligé de répondre à cela. Je crois aussi que ce que les Français sont en train d'intégrer peu ou prou, c'est que finalement, c'est dans le rapport de force, dans la colère, qu'on obtient des choses. Et c'est très mauvais pour la suite. Il y a des tas de catégories dans ce pays qui peuvent se dire, eh bien, on voit ce que les agriculteurs commencent à obtenir, et nous.
Louis Salter.
En fait, Emmanuel Macron, je crains qu'il perde en cohérence alors qu'il avait réussi à tenter de développer une vision. En 2017, il fait un discours au début de son premier quinquennat à Rungis, aux États généraux de l'alimentation, et il identifie déjà le problème, c'est le prix. Il dit le problème, c'est le prix qui est payé à celui qui est au début de la chaîne, l'éleveur, le producteur, l'agriculteur, en gros. Donc il l'identifie. Et c'est frappant de constater que 7 ans après, il n'a pas réglé ce problème, son gouvernement n'a pas réglé ce problème, mais ça lui revient à nouveau en pleine figure, après plusieurs lois Egalim, puisque sa réponse législative, juridique, administrative à ce problème, c'était les lois Egalim. C'était de dire, mais en fait, il ne faut pas que le prix se construise d'une façon à ce que ce soit l'acheteur qui le détermine. Le monde agricole, c'est quand même particulier. Normalement, quand vous entrez dans une boutique, les prix sont affichés et puis vous payez le prix qui est affiché sur la baguette de pain, sur la chocolatine, sur le croissant. Dans le monde agricole, c'est plutôt Lactalis qui décide du prix du lait parce qu'en face de lui, il a une mosaïque éparpillé de producteurs qui sont effectivement, comme le décrivait Eric Fotorino, dans des exploitations familiales et que leur éparpillement est une faiblesse face à la force de groupes concentrés. Je parle de l'industrie agroalimentaire, ne parlons pas de la grande distribution qui arrive à l'ultra niveau de concentration avec ces fameuses centrales d'achat européennes. Et Emmanuel Macron tourne autour de cet immense problème qui est un problème de structure, de structuration en fait de la chaîne du monde agricole et de l'industrie agroalimentaire et de la grande distribution.
Et qui est un problème européen.
Depuis le début, donc il l'a identifié.
Mais qui est un problème européen.
Alors qu'il essaie, oui, parce que on est dans un marché européen, comme pour tous les marchés maintenant. On est dans un marché européen. Les agriculteurs sont conscients, et c'est pour ça qu'ils sont ambivalents vis-à-vis du Rassemblement national, qu'ils interviennent dans un espace européen. Ils savent aussi que la PAC, c'est un tiroir caisse qui se décide à Bruxelles. Et alors là, c'est le moment de vérité, je pense. Il y avait d'ailleurs aujourd'hui un conseil agriculture à Bruxelles, mais après les élections européennes, c'est là en fait que la vie politique européenne va vraiment reprendre avec une nouvelle commission. Est-ce que Emmanuel Macron arrivera à faire prévaloir son statut de vétéran en fait sur la scène européenne, parce que énormément de chefs d'État ont changé alors que lui est en place depuis 7 ans, ce qui est une force à Bruxelles. Est-ce qu'il arrivera à s'en prévaloir pour porter ce combat au niveau européen, lui qui promet un égalisme européen qu'il va porter? Il va falloir convaincre les Allemands, les Hollandais, les Espagnols. Ouais. C'est vraiment pas gagné comme parti.
Et c'est vrai
qu'il peut avoir ce poids-là sur la scène européenne.
Et c'est vrai qu'il y a une partie de la colère, on va le voir sur ces images, qui s'est exprimée, par exemple, contre le stand de l'Union européenne au Salon de l'agriculture. Vous expliquez à l'instant qu'il y a une réunion à Bruxelles. Il y a une manifestation en ce moment d'agriculteurs à Bruxelles. On peut dire aussi qu'en Espagne, les tracteurs sont de nouveau en train d'essayer de rejoindre la capitale. Il y a 19 pays européens qui sont concernés par ce mouvement de colère. Et je voudrais qu'on écoute ce que dit Céline Imar. Elle est agricultrice, mais elle est aussi numéro 2 de la liste LR aux européennes. Elle est céréalière dans le Tarn. Et ce matin, elle dit clairement que ce n'est pas aux agriculteurs de payer pour la guerre en Ukraine. Écoutez.
Il est très clair que ce n'est pas à nous, les agriculteurs français, aujourd'hui, de payer le prix de cette guerre, tout simplement. Donc il faut être cohérent. Là aussi, on a des millions de tonnes de denrées qui rentrent, qui viennent déstabiliser nos filières, nos marchés de la volaille, le marché du sucre et des céréales. Et il nous faut des mécanismes de sauvegarde qui soient extrêmement efficaces.
Donc, soutenu par l'Europe, clairement, par la PAC, mais menacé par des pays européens, soit parce qu'ils ont des coûts de production moins élevés, soit parce que des futurs pays européens comme l'Ukraine, qui risquent, en tout cas, qui déstabilisent déjà une partie de la filière, notamment des céréales ou du poulet, il va falloir trouver des responsables. Ils seront peut-être à Bruxelles, on est à la veille d'élections européennes. Ce serait un paradoxe que l'Europe soit tenu pour responsable de ce qui se passe, Eric Fotorino.
Oui, bien sûr, parce que là, on est dans l'aléa, c'est-à-dire qu'effectivement, vous fixez des prix, vous essayez de trouver les meilleurs accommodements pour les productions, et puis une guerre éclate avec un des premiers producteurs et exportateurs de céréales, mais évidemment. Mais c'est la même chose pour le porc avec la Chine. Les Chinois, tout d'un coup, se sont mis à importer à tout va du porc, et ça a été la fête pour les producteurs de porc à un moment donné. Donc il y a ces aléas de l'économie, de la guerre. La guerre, évidemment, personne ne peut prévoir vraiment une guerre. Mais c'est là aussi, parce que là, quand vous parlez de l'Europe par rapport à ça, je ne me placerai pas sur le terrain économique, je me placerai plus sur le terrain diplomatique et militaire, de qu'est-ce que c'est que cette guerre en Ukraine et qu'est-ce que l'Europe fait.
Oui, mais on voit bien que les opinions entendent aujourd'hui. Attention, il ne faudrait pas que ce soit la faute des Ukrainiens aussi.
Bien sûr.
Au moment où on parle d'aider davantage l'Ukraine, il y a une partie de cette opinion.
Oui.
Et c'est ce qui est dit à l'instant, qui est de dire on ne va pas payer pour l'Ukraine.
Non, mais là où elle a raison, et je pense qu'elle pose bien le problème, c'est que la question de la guerre en Ukraine et de ce que fait l'Europe, ça, c'est un vrai sujet. Je me souviens de cette phrase de Kissinger, l'Europe, quel numéro de téléphone? L'Europe n'existe pas d'un point de vue militaire, d'un point de vue diplomatique. Et donc, ça a une répercussion sur l'agricole, mais ce n'est pas ça le point de principe.
Oui, Saint-Soyer.
Le danger, c'est de lier les deux sujets, c'est-à-dire de lier le sujet de l'agression par la Russie de l'Ukraine et les problèmes économiques de l'Ukraine. Parce que la petite musique que ça entretient,
c'est ça.
Il faut arrêter de soutenir l'Ukraine.
Voilà, c'était le sens de ma question.
Et tout à fait. Et dans l'opinion publique, on l'a testé à nouveau pour la tribune dimanche, on a fait des questions sur le soutien à l'Ukraine. On voit qu'il reste fort en France, il faut commencer par ça, c'est-à-dire suivant les dimensions testées, à entre 62 et 72% de soutien s'il s'agit de l'armement ou du soutien humanitaire, etc. Mais on voit qu'effectivement, ceux qui nous disaient « il faut l'augmenter », eh bien, ils ne le disent plus. Et que, conséquemment, on a plutôt « il faut le réduire ». Et ceux qui disent « il faut le réduire », c'est qui? Ce sont massivement les sympathisants RN, puis les sympathisants de la France Insoumise.
Le salter Didier.
Emmanuel Macron est assez inquiet dans son entourage. Il tenait aujourd'hui une réunion de soutien, d'ailleurs, à l'Ukraine. Et dans son entourage, on explique que la situation sur le front est vraiment très mauvaise, que l'Ukraine perd des positions. C'est quelque chose qu'on sait, qui est documenté. Ça l'inquiète énormément, et aussi le fait que l'opinion soit loin de ça. On est quand même très loin de ça. Il y a 2 ans, le choc suscité était immense. Aujourd'hui, on s'est habitué en fait à cette guerre, et du coup, tous ces enjeux se sont éloignés. Peut-être qu'ils reviendront dans la campagne des européennes, mais dans ce cas, il faudra poser tous les enjeux du problème, et pas seulement par petit bout par bout.
Mais en tout cas, il est très présent dans ce mouvement de colère qui touche aujourd'hui l'ensemble des pays européens. En tout cas, elle sera au Salon de l'agriculteur vendredi. L'écologiste tête de liste aux européennes, Marie Toussaint, a une priorité en ce début de campagne. se faire connaître. Au moment où l'écologie est montrée du doigt en pleine crise des agriculteurs, elle peine à amorcer ce qu'on appelle une dynamique. À 7% dans les sondages, cette juriste qui a grandi à Bordeaux est encore loin des scores, on s'en souvient, de Yannick Jadot et de Daniel Cohn-Bendit. Magali Lacroze, Marion de Vauchel et Aubry Perrault.
Son nom n'est pas connu du grand public. Son visage, pas vraiment plus. C'est elle, la discrète Marie Toussaint, qui porte les couleurs des écologistes aux élections européennes. De Strasbourg à Bordeaux, là où tout a commencé.
J'habitais là-haut, dans un appartement qui donne ici. Ma chambre était juste au-dessus, avec vue sur le parking.
Cette vue sur les pots d'échappement, le climat du sud-ouest et des parents militants, voilà ce qui a forgé ses convictions.
Quand on habite à Bordeaux, dans le sud-ouest, on sait qu'il y a des vagues de chaleur beaucoup l'été, de plus en plus. Moi, je les ai vécues ici, mes premières vagues de chaleur. Et puis, on sait aussi à quel point l'écologie, c'est concret, c'est hyper quotidien.
Fin du monde et fin du mois. Planète et justice sociale, répète la trentenaire qui a grandi dans le quartier le plus pauvre du département.
On a beaucoup souffert du fait que les politiques faisaient des promesses sans les tenir. Donc moi, je viens ici sans faire de promesses, je viens juste être là. Et si je peux filer un coup de main, je fais.
Et ce jour-là, c'est dans le centre-ville qu'elle va porter son message. Une grande manifestation doit démarrer. Ses soutiens sont au rendez-vous.
On est là, Marie, on est là.
Ça va ?
Mais il va falloir aller en convaincre beaucoup d'autres et donc se plier au jeu des interviews.
Je commence à parler, le présentateur intervient et vous pose des questions.
D'accord.
Dans la nouvelle vie de Marie...
La loi a changé en 2017, elle doit encore évoluer.
Il faut avoir une réponse à tout, partout, tout le temps.
C'est assez particulier comme exercice, j'avais jamais fait encore. C'est un peu étrange.
Marie Toussaint s'est engagée très jeune chez les Verts, mais c'est en faisant condamner l'État par la justice pour inaction climatique que cette juriste commence à avoir du poids. Ce jour-là, son écharpe européenne sur l'épaule, elle vient s'opposer à un projet de forage de puits de pétrole sur le bassin d'Arcachon. Une aberration, clame-t-elle.
C'est aussi un message qu'on envoie au reste du monde, c'est que la France, qui se proclame la championne du climat, autorise sur son territoire l'ouverture de nouveaux puits de pétrole, quand tant les scientifiques que l'Agence internationale de l'énergie nous disent que si on veut tenir nos objectifs climatiques, il ne faut plus ouvrir un seul puits d'énergie fossile.
Et soudain, un visage familier.
Ça va ?
Et toi ?
Ouais, ça va bien.
Celui du maire écologiste de Bordeaux, élu en 2020. Des victoires locales, mais au niveau national, les Verts peinent encore à convaincre. En pleine crise agricole, eux appellent à une refonte globale du système.
La réponse du gouvernement, c'est la pause sur le plan éco-phyto. La réponse de l'Europe, c'est l'arrêt, l'abandon de toute législation sur les pesticides. Ce n'est ni la fin des accords de libre-échange, ni la réforme de la PAC pour qu'elle soit plus juste. Il faut se dire les choses franchement. Oui, la transition, elle va entraîner des bouleversements profonds de notre modèle économique, des modes de vie aussi. Mais c'est absolument indispensable.
Dans la foule aussi, Greta Thunberg, porte-parole de la cause climatique, est plus convaincante que beaucoup de politiques aux yeux de ces jeunes engagés, mais parfois peu enclins à voter. Ce Bordelais, lui, hésite entre les socialistes et les Verts pour les européennes.
Pour moi, il faudrait qu'ils fassent une liste commune, comme pour la NUPES, apporter des bonnes choses, mais après, c'est des petites guéguerres politiques. Mais en fait, ils défendent les mêmes idées, que ce soit socialement ou écologiquement, justice sociale et climatique, ça marche ensemble.
Dans les sondages pour l'instant, la candidate écologiste récolterait 8% des suffrages en juin prochain. Bien loin du score de son prédécesseur Yannick Jadot, arrivé en troisième position aux dernières élections européennes, avec 13% des voix.
Cette question pour vous, Brice Teinturier. Régis en Côte d'Or, les Verts qui essaient de soutenir les agriculteurs sont-ils crédibles alors qu'ils les critiquent depuis des décennies ?
Ils ont effectivement beaucoup de mal à être des ardents soutiens des agriculteurs parce que ce qui s'est structuré en termes de perception, c'est que vous avez d'un côté un monde agricole qui a cherché à nourrir les Français, donc y compris en recherchant la productivité, y compris avec du glyphosate. Et puis de l'autre côté, vous avez des écologistes qui nous disent « mais tout cela, il faut l'arrêter ». Et les deux s'entrechoquent. Ouais. Votre émission, elle est fantastique de ce point de vue. On démarre par le salon de l'agriculture et une certaine vision de la France, et on continue avec les enjeux environnementaux et les difficultés d'une campagne des enjeux écologistes, et on voit que c'est une toute autre France, une toute autre vision, et que les deux sont quand même difficilement conciliables. Je veux bien qu'on dise « mais si, tout ça est conciliable parce qu'on recherche... » Ouais. Mais non, objectivement, il y a des des intérêts qui sont contradictoires, des hiérarchies qui ne sont pas les mêmes, et c'est ça que nous vivons.
Éric Fotorino, oui, c'est l'équation que doit résoudre le chef de l'État.
Elle est quasiment impossible, mais je dirais que d'une certaine manière, ils ont pris une option. Avec tout ce qu'ils ont arrêté, enfin, ou en tout cas temporisé sur le plan agro-phyto. Et puis, moi, j'ai eu beaucoup de réactions ces temps-ci de directeurs d'école, de lycée agricole, et qui disent, mais nos élèves, quand ils entendent ça, ce recul, pour eux, c'est terrible, parce que nous, on ne cesse de leur enseigner que l'agriculture de demain, c'est une agriculture respectueuse. Et là, on est en train de dire que finalement, c'est la fête au village, on vous a entendu, on vous allez continuer. Donc moi, je pense quand même que ce qui était vrai, alors, après la guerre évidemment, mais même encore dans les années 70-80, avant que la pollution, avant que tout ce qui était invasif pour les sols et pour l'environnement soit vraiment perçu, on disait bah, c'est bien, on produit et tout va bien. Maintenant qu'on le sait, il faut quand même arrêter. Autrement, ce qui se pose là, ils vont mettre un pansement sur les plaies des agriculteurs, mais demain, le réchauffement, les pollutions, on ne peut pas. Regardez ces images qu'on voit souvent sur votre chaîne, les inondations dans le Nord, Pas-de-Calais, cette artificialisation des terres, cette bétonisation, tout ce qui fait que cette agriculture est devenue monstrueuse par certains aspects, fait qu'aujourd'hui, c'est la vie des gens qui est impactée. Donc si demain, parce qu'on veut préserver la FNSEA ou les grands, on arrive à un problème majeur climatique, ben, je pense qu'on n'aura pas gagné.
Parce qu'à un moment donné, le Premier ministre a mis l'agriculture au-dessus de tout.
Alors oui, ça va parler d'enjeu majeur.
C'est ça.
Ouais, et ça va être un casse-tête juridique, parce que le but, c'est que ce soit opposable aux juges, au moment où ils jugeront, par exemple, des projets intérêts prioritaires. C'est quoi le projet ? Est-ce que construire une nouvelle infrastructure d'agriculture ou d'élevage intensif, eh ben, ce sera aussi un intérêt général majeur. Et là, non seulement on atteint les limites du en même temps, si on s'en tient à la personne d'Emmanuel Macron, mais tout le problème est de l'accompagnement des transitions. Quand Éric Fotorino parlait des grandes lois agricoles à l'époque du général de Gaulle, en fait, c'était de la prévision. On voyait ce qui allait se passer. On voyait que la mécanisation, la modernisation allait entraîner un plan social massif, comme dit Michel Houellebecq dans Sérotonine. C'est ce qui s'est passé à l'époque. L'exode rural fait qu'on a besoin de beaucoup moins de bras dans les champs. Et donc, on accompagne ça. On modernise l'agriculture, on la mécanise, on accompagne cette mécanisation. Évidemment qu'à l'époque, ça se fait à coup d'intrants chimiques et que du coup, l'agriculture française a épousé la productivité, ce qui a permis au passage à la France de devenir autosuffisante alimentairement. Ce n'était pas le cas au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et là, on arrive à un autre type de transition où non seulement cette transition démographique avec la diminution drastique du nombre d'agriculteurs se poursuit, mais à cela s'ajoute la transition climatique. Et là, on n'a pas vu, je pense, ces 20 dernières années où le pouvoir voulait accompagner cette transition-là. Oui, parce qu'on n'a plus la culture de la planification, de l'organisation,
il y a une loi de la protection. Oui,
juste, pardonnez-moi, mais vous dites qu'on ne savait pas à l'époque de la mécanisation, on savait où on allait, cette fois-ci, non. Quand on regarde les textes européens, Farm to Fork ou Fork to Farm, je ne sais plus, en tout cas le Green Deal, etc., les ambitions européennes, pour le coup, elles donnaient un sens.
Il y a un autre problème dans ces textes européens.
Rien n'a été adopté, d'ailleurs.
En fait, les textes européens posent une contradiction entre la souveraineté alimentaire, l'autosuffisance et cette sobriété écologique. Ouais. Le risque avec d'appliquer le plan Farm to Fork qui a été mis au point par la Commission européenne, c'est d'augmenter les exportations vers l'Europe parce que l'Europe n'aura pas la capacité suffisante pour produire pour elle-même. Et c'est là qu'on est toujours dans cette contradiction entre, si on va d'un extrême à l'autre, c'est le côté extrême, c'est le productivisme agricole à tout craint, pour se nourrir, mais aussi pour exporter dans un but commercial. Mmh. Et l'autre côté, c'est on réduit, on fait sobre, et du coup, on n'a même plus de quoi se nourrir.
Nous,
et on est dépendant d'autres puissances dans un monde qui devient très agressif et où les blocs ne se font plus aucun cadeau les uns avec les autres.
Je pense qu'il y a quand même des solutions. Je veux dire, par là, si vous prenez une région comme le Doubs où on fait le comté, ce qu'on appelle les fruitières, c'est finalement les coopératives, ils ont maintenu depuis l'amont, c'est-à-dire que les vaches, elles sont au foin, ils ont gardé le foin, et ils sont une AOP. Donc, si vous voulez, on peut trouver des choses, mais l'agriculture, c'est un art de localité. Ce qui est vrai ici n'est pas vrai à 10 km, encore moins à 100 et encore moins à 1000. Donc ça, on a perdu ça avec le rouleau compresseur d'uniformisation de la politique agricole. Je pense que, par ailleurs, il y a une possibilité, il y a une loi d'orientation qui est en cours depuis 2022. Elle a des directions qui sont très intéressantes, mais elle n'arrive pas, cette loi. Mmh. Donc il faudrait la faire émerger. Et là encore, il faudrait des gens capables de la porter.
Je suis sûre que vous allez voir au Salon de l'agriculture en disant « il faut une nouvelle loi ». Je ne suis pas sûre que ça leur plaise. Allez, on revient maintenant à vos questions. cette question de raie dans le Gard, salon de l'agriculture, Emmanuel Macron s'énerve et Jordan Bardella fait des selfies. Qu'en pensent les paysans ?
Compliqué de généraliser, puisqu'effectivement, ouais. Il n'y a pas une parole, on l'a dit depuis le début de l'émission, une parole de paysans, mais beaucoup, et selon chacun de leurs crises et de leurs problèmes. Après, on a bien noté qu'il y avait le président Macron qui, d'un côté, multipliait les propositions, même peut-être un peu trop de propositions, et Jordan Bardella, dans toute sa déambulation, n'a fait aucune proposition. Ouais. Donc c'était peut-être des selfies, et en tout cas, c'était juste manifester une présence et montrer qu'effectivement, son enjeu et son combat, c'était les prochaines européennes, et Emmanuel Macron était son principal adversaire, visiblement.
Il y en a un qui est aux responsabilités, qui doit rendre des comptes, et l'autre qui essaie de conquérir le pouvoir. Allez, voilà. Une question de mai à Londres. La coordination rurale est-elle liée de près ou de loin au Rassemblement national ?
Alors, c'est l'accusation portée par Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin, en disant que des décideurs locaux de la coordination non rurale sont également désengagés officiels au Rassemblement national. Ce que j'avoue n'avoir pas eu le temps de vérifier depuis, il y a deux faits importants. Le premier, c'est que sur le salon, il y avait une visée politique des manifestations de la coordination rurale. En échangeant avec leur leader avant que le président arrive, ils disaient clairement, ils affichaient la couleur, notre but, c'est qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils sortent immédiatement du salon et qu'ils n'y participent pas. Et l'autre fait, ça s'est passé aujourd'hui, Jordan Bardella a arpenté le salon à nouveau pour la deuxième journée consécutive et il a déjeuné avec une délégation de la coordination rurale. Ça ne suffit pas à établir corrélation de structure, mais il y a une proximité politique.
C'est-à-dire, c'est une scission, c'est des anciens de la FNSEA, la coordination rurale. Et une partie, en effet, a été marquée par le...
Idéologiquement, ils sont beaucoup plus sur les thèmes de souveraineté et de protection, et beaucoup plus vifs encore sur la critique des écologistes et de l'environnement. Donc là, vous avez quand même...
Il y a une proximité idéologique au moins.
Bien sûr, qui rejoint...
Le recours au prix plancher, jusqu'ici toujours écarté, n'est-il pas un signe de fébrilité du gouvernement ?
Ce qu'on a vu clairement dans votre sujet, c'est-à-dire que contre, pour, présentation, multiplication des propositions, bien sûr que c'est un signe de fébrilité.
Une question de Laurent dans le Gers. À vous écouter sur le plateau, il n'y a plus besoin d'agriculteurs en France. Les bobos citadins sont-ils déconnectés de la réalité ? Je ne suis pas sûre
qu'on a dit ça. Non, il faut, bien sûr qu'il faut des agriculteurs. Mais là encore, quel est le portrait robot de l'agriculteur de demain ? Il est à la fois très savant, il fait de l'agronomie, il fait de l'économie, il a de l'administration, il connaît son sol, il connaît les marchés. Mais il en faut, bien sûr.
Mais dans cette question, il y a les bobos citadins. Vous voyez, il y a ce qu'on disait tout à l'heure.
Il y a toujours cette opposition et ce procès en déconnexion. Et je crois que ce qu'on voit aussi, c'est que cette personne, je suppose, est plutôt une agricultrice qui n'est pas dans l'agriculture mécanisée, intensive, etc. Et donc, cette idée qu'on ne comprend pas les problèmes d'une profession qui serait amenée à disparaître. Mais c'est ce que nous n'avons cessé de dire, je crois, depuis le début de l'émission, qu'il y avait ça.
Et des bobos citadins qui votent écologistes et qui ont voté notamment pour des maires écologistes, alors qu'effectivement, dans les zones rurales, il y a très peu de...
Une question de Cédric dans le Tarn. Ne devrait-on pas mettre en place une exception agricole française ? Qu'est-ce qu'il faut entendre par cette expression-là ?
Mais non, elle est intéressante, parce que je ne reviens pas sur l'expression de Bardella, du RN, mais elle est intéressante, mais elle nous ramène justement aux analyses de Brodel dans l'identité de la France. C'est-à-dire qu'il dit la France est vraiment d'essence agricole, comme l'Allemagne d'essence industrielle, avec le capitalisme, le réformisme, etc. Les Pays-Bas, c'est les pays de commerçants. Donc il y a une racine fortement agricole en France. Voilà, donc cette exception, elle est là, mais elle est battue en brèche, évidemment, par les marchés.
Merci à vous tous. Il y avait cette dernière question. Et après, les agriculteurs, à qui le tour ? Les enseignants, les infirmiers, les cheminots, les policiers, c'est ce que vous nous avez dit tout à l'heure, Brice Teinturier. Merci à vous quatre. On se retrouve demain, dès 17h30, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.